J'ai trouvé le Zeitzeit qu'on lisait autour de moi et j'ai eu pour ce livre très tôt une admiration très grande. C'est un des plus beaux livres de l'histoire de la philosophie. J'ai dit ça après plusieurs années de réflexion. Et c'est, non pas c'est un des plus beaux livres, entre 4 ou 5 ou 6 de l'histoire de la philosophie. Oh, c'est très prétentieux de dire ça, mais enfin, c'est le Phèdre de Platon, c'est Critique de la raison pure, c'est la phénoménologie de l'esprit, c'est aussi les données immédiates de la conscience, Bergson. Et alors, évidemment, d'admiration pour Heidegger, et surtout, parce qu'uniquement, l'admiration pour Zeitzeit. Le mot être, on en parle d'habitude comme si c'était un substantif, bien que ce soit le verbe par excellence. En français, on dit l'être, n'est-ce pas ? Avec Heidegger, dans le mot être, s'est réveillé sa verbalité, ce qu'il est comme événement, ce qu'il est comme. Il y a le train d'être, il y a le se passer, qui est le se passer de l'être. Comme si les choses et tout ce qui est mène un train d'être, fait son métier d'être. Et c'est à cela que Heidegger nous a habitués, et je crois que c'est une chose inoubliable. La philosophie aurait été, même quand elle ne s'en rendait pas compte, une tentative de répondre à la question de la signification de l'être, la signification du verbe être. Et par conséquent, exactement comme Husserl proposait un programme de philosophie, Heidegger définissait la philosophie d'une manière tout à fait claire par rapport à tous les autres modes de connaissance. C'était une ontologie fondamentale.
Alors qu'est-ce que l'ontologie ?
L'ontologie, c'est précisément la compréhension du sens du mot être. Ça s'opposerait à toutes les disciplines qui s'interrogent ou qui explorent ce qui est, les étants, leur nature, leur rapport, en oubliant que, en parlant de ces étants, nous avons compris déjà le sens du mot être que nous n'avons pas explicité. Il n'y a pas de recherche pour expliciter la signification du verbe être. En philosophie, on retrouve après coup des tendances qui ne se découvrent que parce qu'il y a eu, à un certain moment, dans un certain présent, une découverte qui a thématisé quelque chose qui n'a pas été thématisé avant. Le travail que je fais sur CERN, je prépare un travail, un petit travail sur la théorie d'intuition sur CERN, a été déjà influencé par Zeitzeit, n'est-ce pas, dans une certaine mesure, dans la mesure où je cherchais chez Husserl aussi, j'essayais de présenter Husserl comme ayant aperçu le problème de l'être, et comme si l'analyse phénoménologique, au lieu de s'occuper de l'essence du réel qui se présente, en recherchant la constitution de ce réel pour la conscience, ne se livrait pas à une recherche des conditions transcendantales au sens idéaliste du terme, mais formuler la signification de l'être des diverses régions de la connaissance. Dans Zeitzeit, dans les analyses de l'angoisse, du souci, de l'être à la mort, nous assistons à un exercice souverain de la phénoménologie, extrêmement brillant, extrêmement convaincant, et qui, en même temps, a été la description de l'être de l'homme, non pas de la nature de l'homme, mais la manière dont l'homme est. C'était la découverte de l'existence, ou plutôt l'explicitation de l'existence humaine. Et ce qu'on a appelé après l'existentialisme est certainement déterminé par Zeitzeit. Heidegger n'aimait pas qu'on donne à Zeitzeit cette signification existentialiste. Il pensait que c'est surtout une marche vers l'ontologie fondamentale. Mais en fait, il a fourni une analyse de l'existence qui a déterminé la plupart des analyses que les philosophes appelés existentialistes ont donné ensuite. Par exemple, l'angoisse, c'est l'angoisse qui apparaît comme un mouvement affectif sans cause, sans objet, ou c'est précisément ce sans-objet qui est la véritable signification de l'angoisse. Si l'angoisse serait l'accès authentique, l'accès adéquat au néant, qui paraissait au philosophe une notion secondaire, le résultat d'une négation, peut-être une notion illusoire. Chez Heidegger, il y a un accès direct au néant, et par conséquent, ce qu'il croit être d'ailleurs l'attitude à l'égard de la mort, qui n'est pas le résultat d'une démarche théorique, d'une série de négations, mais qui est l'immédiateté, une expérience immédiate du néant. L'existence elle-même a un sens, est animée par un sens, et qui n'est pas du tout tout ce qu'on sait sur la destinée de l'homme, ce qu'on raconte sur ses fins ou sur ses buts, sur ses fins ou sur ses causes, mais l'existence dans son événement même d'existence, on existe quelque chose. On existe quelque chose comme si l'existence avait un complément direct. L'existence devient un verbe transitif, n'est-ce pas ? Et cela est, chez Heidegger, absolument évident, mais cela est déjà dans Husserl. Et je pense que c'est l'essentiel de la phénoménologie. Pendant très longtemps, ça a resté un modèle de l'ontologie elle-même. En lisant à cette époque-là, Zeit, la finitude, l'être à la mort, devenaient des vérités philosophiques, des vérités ontologiques. C'est de cela qu'on peut essayer de se libérer. Ce que je veux dire, cependant, après toute l'admiration que je parlais pour Zeit, je dois vous dire que l'œuvre ultérieure de Heidegger ne m'a jamais produit le même effet. Je dis que non pas qu'elle fût insignifiante, mais elle me paraît toujours beaucoup moins convaincante, et cela tout à fait indépendamment des engagements politiques de Heidegger, que je n'ai jamais oublié, que Heidegger ne s'est jamais disculpé pour moi de sa participation au national-socialisme. Mais je dis, mais c'est indépendamment de cela que cette œuvre ultérieure m'a produit une impression beaucoup plus faible.
En quoi ?
Peut-être par la disparition de la phénoménologie proprement dite, par la première place que commence à occuper dans ses analyses les étymologies. Et bien entendu, je sais qu'il justifie cela et que l'étymologie n'est pas du tout une contingence pour lui, et que le mot, dans le mot, il y a une sagesse, et que cette sagesse du mot doit être explicitée, mais pour moi, ça a paru beaucoup moins plus incontrôlable et beaucoup, beaucoup moins convaincant que la façon de Zeit, où il y a déjà des étymologies, mais elles sont adjacentes, elles jouent un rôle d'illustration, elles complètent ce qu'il y a de fort dans l'analyse proprement dite de l'existence. Et pour moi, philosopher sans avoir connu Heidegger comporte une part de naïveté. Et je prends ce terme-là dans le sens husserlien du terme. Il y a tous les savoirs tout à fait respectables, mais qui sont naïfs, et qui n'ont pas eu l'inquiétude principale. Mais il faut aussi que je rappelle, que j'indique un autre apport d'Heidegger, très tout à fait essentiel, c'est une nouvelle manière de lire l'histoire de la philosophie. Les philosophes ont été déjà sauvés de leur archaïsme par Hegel, mais ils entraient dans la pensée absolue comme moment ou comme des étapes qu'il faut traverser. Ils étaient aufgehoben, c'est-à-dire bel et bien anéantis, mais bel et bien conservés. Chez Heidegger, il y a une nouvelle manière, une manière directe de dialoguer avec les philosophes et de demander des enseignements absolument actuels aux grands classiques, comme s'ils étaient nos contemporains. Bien entendu, le philosophe ne se livre pas d'emblée il y a tout un travail d'herméneutique qui le rend actuel. Mais dans l'herméneutique, ce n'est pas des vieilleries qu'on est en train de remuer.